grand B. Oui, hein. Le grand B, c'est du monothélisme à la querelle des images. Donc on est toujours dans ces discussions patristiques du, en gros, du 7e siècle. Alors, petit a, ce qu'on a appelé le concilium in trullo, T-R-U-2-L-O, mais je m'étais souvent posé la question de savoir ce que ça voulait dire. Oui. En fait, c'est le nom d'une salle d'apparat. Voilà. Ah. Tout simplement parce que ça s'est tenu dans la salle d'apparat du palais impérial.
De Byzance.
Non, alors pas à Byzance, je crois que c'était en Dalmatie. Là, il me semble que c'était un peu. C'était pas à Byzance. Ou alors si, c'était peut-être à Byzance, je ne sais plus. Mais ça serait étonnant, c'est étonnant que ça ne soit pas appelé Constantinople, 4, 5 ou 6, etc. Donc le concile in trullo, oui, Mathieu, il faudrait que je regarde à nouveau. Qu'on appelle aussi le concile de Quinisexte. Quinisexte.
Ce qui veut dire.
Bah, je pense que c'est. Je ne sais pas. C'est en 691. Mais je l'ai su, mais je l'ai oublié. J'ai su ça en tournant les pages du, vous savez, l'immense collection d'histoire ecclésiastique, là, Flich et Martin. Mais parfois, ces gens, ces normaliens des années 20-30, s'imaginaient que tout le monde savait déjà ce que ça voulait dire. un normalien, chartiste et autres. Alors, ce concile a été convoqué par l'empereur pour compléter les conciles de Constantinople 2 et 3, donc les 5e et 6e conciles. Ah, vous voyez, Quinisexte, en gros, c'est Quintus Sextus. Hein. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Donc, complétant les 5e et 6e conciles œcuméniques, et il va fixer. En fait, les autres conciles avaient beaucoup. Raté. Avaient beaucoup. Traité de dogmatique, c'était même beaucoup écharpé en dogmatique, et en fait, ils n'avaient pas eu le temps de traiter les questions disciplinaires. Et donc l'empereur, qui veille au bon fonctionnement de l'Église en tant qu'évêque de l'extérieur, fait la police de l'Église, si on veut, et demande aux évêques de fixer des canons disciplinaires pour. Et alors, ce qui se passe, c'est que, comme ce sont essentiellement des évêques orientaux qui vont siéger, en fait, ils vont prendre des canons disciplinaires qui ne tiennent pas compte des usages occidentaux. Et voilà, ça sera une cause de friction. Et surtout, Quinisexte va affirmer que le siège de Constantinople a le même rang que celui de Rome. Alors, en vertu, on est la veille de la Saint-André, en vertu du fait que André a été appelé avant Pierre, vous voyez, et que André a été martyrisé à Byzance. En fait, il n'a pas été martyrisé à Byzance. Ses reliques ont été transportées à Byzance à un moment. Et on a fait toute une affaire en disant, donc voilà, le frère de Pierre, première chose. Puis le premier appelé, vous voyez. Hein, Pierre est le chef de l'Église, était celui qui a reçu le pouvoir des clés, qui est le chef du collège. Mais André est le premier appelé, alors donc Protos quand même, et puis de Protos en Protos, vous voyez, l'idée c'était finalement la tête de l'Église soit là où se trouve la tête politique. Et donc c'est toute l'idéologie des Roms successives. La première Rome, donc l'Église est à Rome. La seconde Rome est à Constantinople, donc l'Église doit être centrée sur Constantinople, et il y aura l'idéologie au XVIe siècle de la troisième Rome à Moscou, et avec l'idée que le vrai siège de l'Église, c'est à Moscou.
Et les derniers Roms, c'est nous qui les avons maintenant.
Comment ?
Les derniers Roms, c'est nous qui les avons.
C'est ça. Voilà. Ou la quatrième Rome, ça sera Bucarest, oui, peut-être bien. Et alors, la grande idée, vous voyez, l'erreur, c'est que on subordonne l'Église au pouvoir politique, ce qui est vraiment dans la logique de l'Orient, alors que l'idée qui fait que la première Rome ecclésiale ne passera pas, même si politiquement elle passe, c'est le sang des martyrs, en fait, des deux colonnes de l'Église, comme dit Clément de Rome. Voilà. Il parle des deux colonnes de l'Église. Pierre et Paul. Oui. Comment ? Oui. Et du coup, donc ce qui marque la primauté romaine, c'est le sang de Pierre. Alors, après, les Byzantins vont dire « Oui, mais on a aussi les reliques de André. » Oui, sauf que André n'a pas été martyrisé à Constantinople, vu que Constantinople n'existait pas à l'époque. Et que c'était Byzance, une petite ville, quoi. Mais, et en plus, on ne sait pas très bien où il était. On sait qu'il a été martyrisé en Grèce, en Achaïe. Mais vous savez, la Grèce, c'est petit. Enfin, c'est quand même grand, hein. C'est plus grand que Byzance. Bon. Alors, oui.
Excusez-moi, mais la parole du Christ sur tuer Pierre.
Et sur cette pierre.
Dans cette affaire.
Eh bien, vous voyez. On l'interprète en disant le siège de Constantinople est à le même rang que le siège de Rome. On n'ose pas dire qu'il est au-dessus, mais, mais voilà, on le pense. On le pense. Ou du moins, on fait en pratique comme si. C'est-à-dire, en fait, on nomme le patriarche, comme je dis, parfois on prend un haut fonctionnaire du palais, et puis en 15 jours, il reçoit tous les ordres, et puis il est installé patriarche. Et ce n'était pas les pires, parfois. Non, c'est ça qui est amusant, hein, c'est que parfois c'était des bons fonctionnaires qui, une fois devenus évêques, faisaient bien leur travail, mais alors, dans une parfaite servilité au pouvoir politique. Le pape de Rome, alors celui de Rome, là, Damien, je parlais tout à l'heure de Pierre, Paul, Clément, alors maintenant il ne me reste plus que Damien, comme le Damien. je complète le canon. Alors là, le pape n'est pas dans le canon, c'est Serge Ier. Qui a régné entre 696 et 701. Serge Ier est un Syrien, et donc un oriental, hein, et il va refuser d'appliquer les décisions de ce concile de Cluny Sexte. Et donc, à cette période, on a donc une tension entre l'Orient et l'Occident, mais on a aussi une sorte de fragmentation de l'Église d'Orient. Donc, fragmentation qui est liée aux confessions, aux controverses christologiques, et qui vont dégénérer en Église nationale. Parce que, finalement, quand dans une ère géographique, une Église se constitue, finalement, elle attire à elle à peu près tout le monde, en fait. Hein. Donc, après, en 451, il y aura une rupture entre l'Église indivise et les monophysites de Syrie. Vous vous souvenez que, curieusement, une partie de la Syrie occidentale, était devenue monophysite, alors qu'elle avait abrité les défenseurs plutôt des nestorianismes. Enfin, voilà. Et alors, c'est cette église de monophysite de Syrie occidentale, elle existe toujours sous le nom de Jacobite. Vous avez peut-être entendu ce nom, les Jacobites. Alors, à ne pas confondre avec ceux de...
D'Irlande.
Oui, voilà. C'est pas les mêmes. Hein. Ou d'Écosse. Donc, c'est un certain Jacob Barkaï qui était une sorte de métropolite et qui a organisé l'église nestorienne, donc vous savez, monophysite, donc qui insiste sur la suprématie de la nature divine du Christ et un effacement de sa nature humaine. Et puis, même époque, constitution des églises monophysites d'Égypte et de tout ce qui est, pourrait dire, soumis à l'Égypte, dans la gravitation de l'Égypte, à savoir l'Abyssinie et l'Arménie aussi. Vous savez que les premiers évêques abyssins, c'était deux jeunes commerçants égyptiens qui avaient été capturés par les Éthiopiens. Et au lieu de les manger ou je ne sais pas quoi faire, ils les ont amenés à la cour. Et puis, ils ont commencé à parler du Christ, etc. Du coup, le roi était intéressé. Et il les a renvoyés en Égypte se faire sacrer évêque. Et ils sont revenus pour organiser l'église éthiopienne. Donc, vous voyez, l'église éthiopienne, elle est née d'un, on pourrait dire, d'un rapt. Et alors, donc, ils vont devenir monophysites, hein, puisqu'ils sont vraiment dans la... comment dire, dans l'orbite spirituelle de l'Égypte. Et puis les Arméniens aussi vont devenir monophysites. Les Arméniens, ils sont un peu au nord de la Syrie occidentale. Donc, hein. Alors, pourquoi les monophysites quittent l'Église? Parce que c'est le tournant un peu nestorien dans les décisions dogmatiques. Puis après, vous savez, avec Chalcédoine, on va remettre un peu les pendules à l'heure en limitant en rééquilibrant un petit peu la doctrine. Et du coup, ça va faire partir les Nestoriens. Alors, après, en 486, on a les églises de Syrie orientale, si on peut dire, enfin de Mésopotamie, qui, elles, sont restées nestoriennes, qui font sécession, et aussi les chrétiens de Perse, la petite église qui avait subsisté après les terribles persécutions des Sassanides, enfin des dynasties perses avant l'arrivée des musulmans, vont passer au nestorianisme. Et c'est ce christianisme nestorien qui se situe au Moyen-Orient qui va être très missionnaire et qui va se diffuser vers l'Extrême-Orient et qui va atteindre les côtes de l'Inde, de la Chine même, du Tibet. Et les jésuites, au XVIIe siècle, ont la grande surprise de découvrir des stèles qui rappelaient la présence d'églises nestoriennes dans les pays de Chine, vous voyez, en Chine. Et on sait qu'il y avait un moine nestorien à la cour de Pékin, bien avant que les franciscains du XIIIe siècle... viennent en Chine par la route de la soie. Alors, ces communautés nestoriennes se développent, mais elles se développent un peu en territoire fragile, enfin en territoire en dehors des limites de l'Empire. Donc, ce sont des communautés fragiles qui parfois peuvent disparaître quand il y a un regain de nationalisme ou de poussée religieuse ou tout simplement un empereur mal luné. Elles ont toutes fini plus ou moins par disparaître, pas toutes, mais au sud de l'Inde, par exemple, il y a des communautés que les jésuites, les franciscains, portugais et espagnols vont redécouvrir quand ils aborderont aux Indes. Et puis, alors, dans cet ensemble qui est de plus en plus à l'extérieur des frontières de l'Empire, parce que les frontières de l'Empire, elles ont tendance à reculer vers l'Ouest, les communautés fidèles à la foi chalcédonienne, sont relativement petites et elles vont bientôt être dépourvues de protection naturelle. Hein, donc, ceux qu'on appellera les Melkites, c'est-à-dire les impériaux, ils vont se retrouver sans la protection justement des armées impériales et ils vont avoir tendance aussi à, disons, à dépérir. Hein. Comme regardez aujourd'hui, entre guillemets, les Melkites d'Égypte, ils sont à peine 1% de l'effectif des chrétiens d'Égypte. Hein. En Syrie, c'est plus varié, mais qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Alors, si, il y a aussi ce moment aussi où les Maronites vont se constituer dans leurs montagnes, et eux vont garder la foi chalcédonienne, mais au départ, ils n'étaient pas. Ils avaient refusé le concile de Constantinople III, qui avait mis un peu fin, vous vous souvenez, à la question du monothélisme. Alors, une fois qu'on a réglé un problème, il y en a un autre qui se présente. Hein. Donc, le problème suivant, c'est au siècle suivant, c'est petit b, la querelle iconoclaste, qui va être réglée par le deuxième concile de Nicée. En 787, à la vente de charité, j'ai vu le résumé de la thèse de Christophe Schönborn, qui était dominicain, avant d'être archevêque de Vienne, avait fait sa thèse sur l'image du Christ autour de la querelle iconoclaste. Et il y a un petit volume de vulgarisation qu'il a publié. Alors, la querelle iconoclaste, elle tient. Vous vous souvenez que les monophysites, à l'intérieur de l'Église officielle, ceux qui ont tendance à accentuer l'importance de la divinité dans le Christ, considère que la divinité est irreprésentable, tout simplement se basant sur la Genèse, enfin sur l'Ancien Testament, on ne peut pas faire d'image de Dieu, et pour eux, ça continue dans le christianisme. Donc le fond du Christ, pour les monophysites, n'est pas représentable, et pour les nestoriens, qu'est-ce qu'on voit ? On voit le Christ, donc il est représentable, mais la divinité n'est pas plus représentable. C'est-à-dire, quand on représente le Christ, on représente l'homme, en gros. Alors, avec cette mystérieuse union avec le divin, avec le Fils en lui. Pour les monophysites, c'est plus embêtant, parce que comme l'humanité est plus une apparence, d'une certaine manière, ça n'a pas d'intérêt de représenter une apparence, en fait. Et du fait qu'on rate ce qui est l'essentiel du Christ, qui est le divin, qui, par définition, n'est pas représentable, puisqu'il est immatériel. Donc, finalement, les uns et les autres vont avoir tendance à s'opposer à la représentation des images. Donc on dit le Christ, on ne doit pas faire d'image de Dieu, et notamment donc du Dieu fait homme. Hein.
Par hasard, ça correspond à l'arrivée de l'islam.
Oui, c'est exactement ça. Le terrain était préparé. Et comme par hasard, toutes ces églises officiellement nestoriennes et monophysites, elles vont subsister, bien sûr, hein, comme on le voit aujourd'hui, mais l'état d'esprit des gens a fait qu'ils n'ont pas été choqués par l'invasion musulmane, disons. Ça s'accordait avec la vision... d'ailleurs, en gros, les tribus qui ont donné naissance à l'islam, c'était des tribus qui avaient été évangélisées par des chrétiens monophysites, des tribus bédouines qui nomadisaient en Arabie, et des tribus juives aussi, pour lesquelles, évidemment, il n'y a pas d'incarnation possible et pas davantage de représentation de Dieu. Donc finalement, il va y avoir une sorte de très peu de résistance, parce que les esprits étaient prêts à accueillir cet iconoclasme. Alors, il faut dire aussi que les défenseurs des images n'étaient pas non plus exempts de toute erreur, parce que on avait tendance à oublier que l'image n'est que l'image de quelque chose. Et donc finalement, l'image devenait absolutisée, et une image absolutisée s'appelle une idole. Et c'est précisément la raison pour laquelle Léon III, en 726, fait retirer des images qui, pour lui, sont l'objet d'une dévotion excessive, idolâtrique, car superstitieuse. Et si bien qu'il y aura des échauffourées à Constantinople, et le pape de l'époque, Grégoire II, va soutenir le patriarche Germain de Constantinople, qui s'oppose à l'iconoclasme, mais qui est quand même aussi conscient qu'il y a eu des abus dans la dévotion populaire. Par exemple, on grattait des icônes. Annette Richter n'est pas là, mais donc on grattait des icônes et on récupérait l'or de l'icône et on mettait dans le vin du calice.